Radio Marktblock, der Podcast des Centre Marktblock.
Radio Marktblock, le podcast du Centre Marktblock. Radio Marktblock,
le podcast
du Centre Marktblock.
Bonjour, bienvenue sur Radio Marktblock, le podcast du Centre Marktblock, le centre franco-allemand de recherche en sciences sociales à Berlin. Je suis Yasmine Afshar, doctorante associée au Centre Marktblock, et pour le premier épisode de notre série de l'été « Voiture et lutte politique », je vous propose un dialogue avec le chercheur Pierre Lannoy. Bonjour Pierre.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à cette série sur la voiture. Vous êtes sociologue et chargé de cours en sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Vos travaux portent principalement sur les questions des transports et des mobilités. Vous êtes l'auteur avec Johan Demoly du livre « Sociologie de l'automobile » paru dans la collection Repair chez La Découverte, ainsi que de plusieurs articles sur le même sujet. Dans vos recherches, vous prenez la voiture comme un point d'observation de nos sociétés, ce qui est également notre objectif dans cette série d'été de la Radio Marktblock. Depuis août 2020, les déplacements de la rue où se trouve le Centre Marktblock, au centre de Berlin, la Friedrichstrasse, ont changé de nature au moins trois fois. À deux reprises, la rue a été déclarée autofrei, piétonne. Mais à partir du 1er juillet 2023, elle sera à nouveau occupée par les automobiles. Ces curieux va-et-vient reflètent cependant le débat public berlinois plus large des dernières années, autour de la réduction de la vitesse sur les autoroutes, de la restriction des places de parking dans les quartiers, mais aussi de la suite de la construction d'un tronçon d'autoroute qui traverserait la ville, la A100. Débat au cœur des dernières élections municipales, l'antagonisme autour de la circulation automobile s'illustre aussi dans les images abondantes d'agressions subies par les activistes climatiques, les climat-clébats, de la part des automobilistes irrités par les blocages routiers. Partout, le trafic motorisé s'impose, que ce soit au détriment des objectifs de neutralité climatique, de la permanence des habitants dans leur logement, des clubs nocturnes qui donnent à la ville son visage, des piétons ou des cyclistes. Pour commencer, une question d'ordre historique. Apparue dans la seconde moitié du 19e siècle, la voiture ne deviendra un objet de consommation de masse qu'à partir des années 1920-1930. Apparaît alors la notion de voiture populaire ou voiture de peuple, la Volkswagen en allemand, dans le contexte que vous nommez populisme automobile. Vous citez des figures telles qu'Adolf Hitler, Henry Ford ou Louis Renault. En quoi consiste donc ce populisme automobile dont vous parlez au moment de son apparition en Allemagne, aux États-Unis et en France? Et quelle est sa relation avec les projets nationalistes de l'époque?
Alors, par cette expression de populisme automobile, j'entends un projet à la fois industriel et politique qui vise à équiper en automobile l'ensemble de la population d'un pays. Et c'est un projet qui est né effectivement entre les années 1910 et 1930 et qui supposait de concevoir une voiture pour tous, hein, une voiture à la fois modeste et fiable, à l'image finalement du peuple lui-même. Et finalement, ce projet, quand on le replace dans son contexte historique, est un projet, on pourrait dire, visionnaire ou audacieux, qui en fait se présente en rupture avec le chemin qui a été déjà pris depuis la fin du 19e siècle, le chemin qui a été pris par la fabrication automobile, qui était une fabrication au départ à la fois artisanale, avec un nombre très petit de véhicules, et qui était destinée à une clientèle très aisée. Et donc, à l'époque, les fabricants d'automobiles, qui étaient en grand nombre quand même, n'imaginaient même pas que le simple ouvrier pourrait rouler en voiture. Et donc, c'est Henry Ford qui a eu cette vision véritablement de dire il faut, d'une certaine façon, que tous les Américains, tous les ouvriers américains possèdent une voiture. Je disais, projet à la fois économique, industriel et politique, parce que bien sûr, Henry Ford, en ayant cette idée, vise à augmenter le profit de sa production et à gagner de l'argent, mais a aussi une certaine vision de ce que peut être la société américaine et de l'équipement dont elle peut bénéficier. Et donc, il va mettre au point de nouvelles techniques de production, parce que produire en masse un véhicule suppose de changer les manières de travailler aussi pour fabriquer ces produits. On va abandonner la figure de l'artisan pour aller vers la figure de l'ouvrier à la chaîne, ce qui va permettre de baisser les coûts et de proposer sur le marché un produit à la fois standardisé, homogène et peu cher, hein, qui est la fameuse Ford T, qui était un modèle unique au sens où il n'y avait pas de choix à faire de la part du consommateur. Et en fait, ce modèle va avoir un grand succès et il va être repris par une série d'autres grands dirigeants de l'époque, dirigeants à la fois d'entreprises ou de nations. Ça va être le cas notamment d'Adolf Hitler, qui était un grand admirateur d'Henry Ford, à la fois pour sa réussite industrielle, mais aussi pour ses idées politiques, à la fois pour son antisémitisme relativement déclaré, et aussi pour sa vision de ce que c'était l'urbanisme, la ville, et ce que c'était une société bien ordonnée. Hein, je rappellerai aussi ici en passant que voilà, les frontières entre politique et économie ne sont pas si étanches que cela. Hein, Hitler, avec son pouvoir absolu, était à la fois un homme politique, mais qui avait aussi des visions de ce que devait être l'économie et la production industrielle. Et inversement, Henry Ford, qui était un industriel au départ, s'est présenté aux élections présidentielles américaines, donc avec l'idée que s'il sait diriger une entreprise, il sait aussi diriger un pays. Il n'a pas été élu, mais donc voilà, les frontières sont poreuses. On a souvent aujourd'hui l'idée de sphères qui seraient séparées, l'économie d'un côté, la politique de l'autre. Bien souvent, ceux qui ont énormément de pouvoir dans l'une ou l'autre de ces sphères, en fait, ont des visions sur le politique et sur ce que ça doit être l'industrie. Même chose en Italie dans les années 30, sous le régime fasciste de Mussolini, on a aussi le développement d'un modèle de voiture populaire, la Topolino, qui est l'ancêtre de la Fiat 500 actuelle. Et puis aussi en France, progressivement, se développe l'idée d'un modèle populaire, accessible à tous, et qui va être surtout développé après la Seconde Guerre mondiale, à partir du moment où l'entreprise Renault va être transformée en régie nationale, nationalisée, donc gérée par l'État français. Jusque-là, elle était gérée par son patron fondateur que tu as cité, Louis Renault, mais qui, de fait de collaboration avec l'ennemi, s'est vu retirer des affaires. Et donc partout, on pourrait encore citer d'autres exemples, il y a cette idée qu'il est possible de produire une voiture pour le peuple, et c'est cette idée de populisme automobile, c'est-à-dire les dirigeants ont cette vision que le peuple finalement mérite d'une certaine façon une automobile, certes une automobile modeste, mais le peuple à cette époque-là est conçu comme étant un ensemble modeste, hein, de gens modestes, travailleurs, hein, et ce peuple est aussi considéré à l'époque comme étant finalement la nation, hein, le cœur de la nation, et ce qui correspond aussi de facto à des marchés industriels, puisque de fait, Henry Ford, par exemple, vise d'abord le marché américain. Hein, on est dans les années 1920-1930, donc là, on est en plein développement du marché américain. Et même chose pour les régimes politiques hitlériens ou mussoliniens qui visent d'abord, évidemment, la consommation intérieure de leur nation, consommation et production intérieure de la nation. Donc, le peuple, c'est la nation et c'est le consommateur, mais c'est aussi celui, finalement, qui, d'une certaine façon, mérite, on pourrait dire, d'accéder à l'automobile qui est présenté par ces personnes comme étant un bien qui ne doit pas être réservé à l'élite. C'est ça aussi l'idée de populisme au sens politique, c'est-à-dire c'est des acteurs qui disent, mais en fait, voilà, ces biens de consommation ne doivent pas être réservés à une élite riche, mais tout le monde y a droit, finalement. C'est un peu ça l'idée que j'essaye d'exprimer avec cette notion de populisme automobile qu'il faut bien replacer dans son contexte historique disons, de l'avant première, de l'avant Seconde Guerre mondiale et du début des années 50.
Après 1945, la production automobile a explosé et structuré la période des croissances économiques connue sous le nom des Trente Glorieuses. Dans le monde entier, les voitures exportées depuis l'Europe et les États-Unis ou produites dans les usines locales ont modifié les modes de vie et les paysages. Pour ne citer qu'un exemple, au Brésil, mon pays d'origine, de nombreuses lignes de chemin de fer existantes ont été démantelées pour faire place à des autoroutes. Dans un pays de la taille d'un continent. J'aimerais que vous parliez de la transformation de la voiture en symbole de modernisation et de développement d'une part et d'ascension sociale d'autre part.
Oui, effectivement, c'est une bonne manière d'entrer dans cette période de l'après-Seconde Guerre mondiale et qu'on va appeler la période des Trente Glorieuses. Et puis certains aujourd'hui l'appellent la période des Trente Désastreuses, mais j'y reviendrai. Mais effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, on pourrait dire d'une certaine façon, le monde change dans le sens, pour le dire très simplement, qu'il va vers des formes de libéralisation à la fois économique mais aussi politique. Hein. On sort de régimes dictatoriaux qui ont régné dans l'entre-deux-guerres et vers aussi des formes de libéralisation au sens d'un accès à la consommation des ménages qui aspirent à plus de confort domestique et aussi va naître à cette époque-là la notion de temps libre, hein, qui était une notion inconnue finalement avant la Seconde Guerre mondiale. Et donc cette libéralisation à la fois politique, économique, on pourrait dire domestique d'une certaine façon, va amplifier un mouvement d'individuation de la vie sociale. Je préfère ce terme à celui d'individualisation. L'idée, c'est qu'on va progressivement vers une valorisation de choix personnels, choix individuels dans la manière de mener sa vie. Et mener sa vie, ça veut par exemple dire choisir d'habiter à un endroit ou à un autre. Et ces choix étaient fortement contraints avant l'arrivée de l'automobile, on pourrait dire. Et d'une certaine façon, l'automobile va être une promesse, va se présenter comme une promesse de ce qu'on peut appeler, à la suite du sociologue Jean Remy, une promesse d'automobilité. L'automobilité, qu'il ne faut pas confondre avec l'automobilisme, et cette aspiration à une capacité autonome de mouvement. Hein, dans cette période où on sort des régimes dictatoriaux, collectivistes, on pourrait dire d'une certaine façon, voilà, il y a une aspiration à sortir des contraintes collectives, même si elles existent toujours, bien évidemment, et ça se place notamment à la fois dans les registres de la mobilité, mais de la mobilité, ça veut dire aussi du résidentiel, là où on habite, là où on travaille, une certaine forme aussi de libéralisation des mœurs, l'entrée des femmes sur le marché du travail. Donc tous ces éléments rendent central le désir d'automobilité. Et finalement, ce désir d'automobilité va entrer en connivence avec la diffusion de l'automobile, avec la disponibilité de plus en plus grande de l'automobile. Et donc, on va être dans cette période de forte croissance économique, de plein emploi, hein, et finalement de progrès non critiqués encore dans les années 50-60, qui vont notamment entraîner, j'y reviendrai sans doute, un fort étalement urbain, une périurbanisation à la fois souhaitée en termes de modèle culturel, c'est-à-dire sortir de la ville et de ses contraintes, et rendue possible finalement par l'automobile. Et donc l'automobile, dans cette période des années 50, 60, 70, elle est pas uniquement une vision d'ascension sociale, bien sûr, ça en fait partie, mais c'est aussi l'idée de participer à une forme de bien-être matériel collectif qui est en train de s'ouvrir, hein. Donc, en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique, après la Seconde Guerre mondiale, très peu de ménages possèdent une voiture. Finalement, ils aspirent à ce bien-être matériel collectif qui se rencontre aussi à la maison, on pourrait dire, avec le réfrigérateur, la télévision, mais aussi hein, avec un peu plus tard le téléphone notamment. Donc voilà, il y a l'idée de participer finalement à ce bien-être collectif qui passe aussi, je l'ai dit, par les loisirs, et les loisirs, ça, c'est par le développement aussi de la consommation d'autres espaces de vacances vers lesquels il faut se déplacer, hein, et donc on va aussi utiliser la voiture. Et dans le même temps, on va voir prendre de plus en plus d'ampleur une industrie, on pourrait dire, culturelle, hein, que ce soit le cinéma, la télévision, mais aussi la photographie. Il ne faut pas oublier que les magazines avec des photographies, bon, bien sûr, il en existait avant la Seconde Guerre mondiale, mais ce n'était pas des grands tirages. Et donc, on va avoir une diffusion de l'image de la voiture à travers tous ces supports, le cinéma, la télévision, les magazines, comme un produit d'intégration hein, au progrès matériel finalement des sociétés occidentales. Et acheter une voiture, c'était participer finalement de cette ascension qui n'était pas une ascension individuelle, on pourrait dire, mais qui était une forme de destinée collective en fait des sociétés occidentales de cet immédiat après-Seconde Guerre mondiale.
Le choc pétrolier des années 1970 semble avoir commencé à modifier ce panorama. Dans quelle mesure les changements sociaux au niveau de l'État et de l'économie ont-ils ébranlé ces idées de modernisation et d'ascension sociale? Quand peut-on dire que les changements climatiques commencent à jouer un rôle dans ces débats?
Alors, c'est une question très intéressante, effectivement, parce que il a fallu, d'une certaine façon, du temps pour que l'image de la voiture, d'une certaine façon, commence à être un peu égratignée, on pourrait dire, un peu affectée par une série de critiques. Alors, si on prend un regard historique, les premières critiques vont pas être des critiques, disons, de nature environnementale. Les premières critiques vont parler de l'accidentologie. En fait, c'est d'abord les morts sur la route qui vont attirer les premières critiques vis-à-vis de l'automobile. Hein, il faut savoir qu'avec le développement du parc automobile, donc la croissance du nombre de voitures en circulation après la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'accidents de la route va augmenter très très fortement puisqu'on est dans des réseaux routiers qui sont encore relativement peu équipés ou mal équipés, des voitures aussi qui ne sont pas très sûres, qui sont dangereuses, et puis aussi finalement une population qui n'a pas encore vraiment l'habitude, on pourrait dire d'une certaine façon, de conduire. Et donc les taux d'accidents augmentent très fort dans les années 50, 60. Et donc vont naître des premières critiques, notamment la plus célèbre, c'est celle de Ralph Nader aux États-Unis, un philosophe qui va écrire un livre très célèbre qui s'appelle en français Les voitures qui tuent en 1965, Unsafe at Any Speed, écrit Ralph Nader, et qui est une première critique véritablement forte de l'automobile et qui est en fait une critique d'abord au nom de la défense du consommateur. C'est-à-dire, il dit, ben voilà, utiliser une voiture, c'est dangereux en fait pour le consommateur, c'est mal conçu, il n'y a pas de système de sécurité, et en fait, vous tuez quand vous allez en voiture. Un peu comme aujourd'hui, on a autour du tabac, par exemple, des slogans en disant que c'est dangereux pour la santé. C'est un peu cette idée-là, c'est la naissance des mouvements de consommateurs, on pourrait dire, et c'est la première grosse critique qui est adressée à l'automobile, c'est qu'elle est dangereuse. Il faut savoir, simplement à titre anecdotique, on pourrait dire que la ceinture de sécurité est introduite en France en 1973 pour les voyages hors agglomération et qu'elle sera rendue obligatoire partout en 1979. Donc, ce qui n'est quand même pas si loin que ça. Et dans d'autres pays, ça a encore été plus tard. Donc, ça, c'est la première grosse critique, une critique liée au risque de l'automobile. Et alors, effectivement, le choc pétrolier de 1963 va amener l'idée de la pénurie. La possibilité d'une pénurie de pétrole qui va aussi mettre en lumière les dépendances géopolitiques, hein, bien sûr, au pétrole. C'est la première fois, visiblement, qu'on en discute, on pourrait dire. Et c'est à ce moment-là que va sortir, c'est la même année, le célèbre livre d'Ivan Illich, philosophe autrichien, qui s'appelle « Énergie et équité ». Et qui va surtout mettre en avant les inégalités d'accès à l'énergie, en fait, et puis surtout la dépendance énergétique de nos sociétés, hein, avec l'idée qu'il faut sortir de cette dépendance énergétique. Donc, les grosses premières critiques sont de l'automobile sont pas environnementales au sens où on l'entend aujourd'hui. Il y a aussi des critiques portées dans ces années-là au fait que la voiture porte atteinte au caractère habitable des villes. Hein, et ça va être notamment des critiques portées par le livre très célèbre de Jane Jacobs, « Déclin et survie des grandes villes américaines », qui est sorti en 1961. Et là, c'est des critiques sur le fait que l'automobile rend les villes inhabitables et donc il faut repenser des quartiers sans automobile, etc. Mais donc voilà, ça c'est les premières grosses critiques sont portent sur ces thèmes-là. Et finalement, c'est avec notamment les sommets de la Terre 72, 82, 92 que vont venir vraiment les critiques plus fortement liées à la pollution automobile. On peut dire que historiquement, la pollution est la dernière critique que l'on a apportée à l'automobile d'un point de vue chronologique, on pourrait dire.
Selon le service des données et d'études statistiques, SDES, en 2017, les habitants des zones périurbaines françaises parcourent en moyenne 7690 km par an, alors que dans les pôles urbains, cette moyenne tombe à 4700 km par an. Par ailleurs, en dehors des pôles urbains, 90% des ménages possèdent une voiture, alors qu'ils ne sont plus que 70 dans les grandes villes. Ce contraste entre villes et zones périurbaines ou rurales semble se répéter avec plus ou moins d'intensité dans d'autres pays, comme l'Allemagne ou les États-Unis. Pouvez-vous nous expliquer comment ce partage géographique de la dépendance à l'égard de la voiture s'est construit historiquement?
Alors, l'automobile a trouvé en dehors des villes des territoires étendus, hein, dans lesquels elle s'est montrée utile. Et en même temps, l'automobile a contribué à étendre ces territoires tout en les rendant plus accessibles. Donc, il y a un phénomène à double versant, on pourrait dire. Finalement, l'automobile s'est imposée surtout hors des villes parce qu'elle a constitué son espace hors des villes. C'est là qu'elle pouvait être, d'une certaine façon, la plus efficace. Je pense ici aux travaux d'un géographe américain, Ronald Horvath, qui a écrit un article très intéressant qui s'appelle « Machine Space », et dans lequel il montre que toute machine, pour fonctionner, a besoin de produire son territoire. C'est là la meilleure. Pensez à l'exemple de l'aéroport. Vous ne savez pas faire décoller des avions si vous n'avez pas un aéroport qui lui est réservé, en fait. C'est impossible, ça ne marchera pas. C'est un peu la même chose pour la voiture. Et donc, la voiture a trouvé en dehors des villes de l'espace pour être finalement la plus efficace, la plus utile, avec des routes, avec des centres commerciaux, des parkings, des lotissements, etc., dans lesquels elle est finalement à la fois très efficace, mais où elle devient aussi incontournable. Et donc, où elle génère de la dépendance. Et là, je pense notamment aux travaux du géographe français Gabriel Dupuis, qui a beaucoup pensé la dépendance automobile. Hein, la dépendance automobile, c'est quand le système automobile se développe et transforme les territoires au point que ces territoires ne sont plus utilisables autrement qu'en voiture. Et ça, c'est surtout le cas des espaces hors des villes, en dehors des villes. Parce que la ville, finalement, réussit à garder toute une série d'équipements alternatifs, les transports publics, la marche à pied, le vélo, qui peuvent être plus efficaces finalement que la voiture, dont finalement dont l'espace n'a pas été complètement transformé pour elle, même si bien sûr il y a eu énormément de transformations et de places données à la voiture. Il reste que les villes ne sont pas encore tout à fait ces machine space, en tout cas les villes européennes ne sont pas tout à fait ces machine space dont parlait Horvath. Les villes américaines sont sans doute plus proches de villes totalement automobiles.
Pour terminer, j'aimerais que vous parliez un peu de SUV. Selon l'Agence internationale de l'énergie, IEA, sur l'ensemble des véhicules neufs livrés dans le monde en 2022, près de la moitié étaient des SUV, ces 4x4 urbains ultra polluants. Fin 2021, l'IEA a révélé que si les SUV étaient un pays, ce serait le sixième plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Cela est d'autant plus frappant puisqu'il s'agit d'une voiture puissante et robuste qui s'apparente aux tanks de guerre. Cette stylisation militariste semble aller de pair avec une utilisation offensive de la voiture individuelle, la voiture comme arme. Dans ce sens, on a pu recenser ces dernières années l'utilisation de la voiture dans des épisodes de violences politiques, par exemple, des renversements des manifestants au cours des protestations qui ont suivi la mort de George Floyd aux États-Unis, ou lors des vagues de protestations de 2021 en Colombie, où ces agresseurs se sont fait connaître sous le nom des Los Toyotas. Pensez-vous qu'il soit possible de parler des dérives militaristes de la culture automobile ?
Oui, d'une certaine manière. Je voudrais juste préciser en entrée, sans doute que, comme je l'ai dit dans les autres questions, il y a toujours eu des liens assez proches, finalement, entre des utilisations militaires et des utilisations civiles de la voiture. Hein, je vous rappelle simplement la Volkswagen d'Hitler, c'était d'une certaine façon un projet de militarisation, d'équipement d'un véhicule de la population civile. Donc, je passe cette petite parenthèse, mais bien sûr, il y a cette tendance de plus en plus forte à concevoir l'espace urbain, à la fois les utilisateurs, mais aussi les responsables, concevoir l'espace urbain comme étant un espace dangereux. Et ici, je pense notamment aux travaux de Stephen Graham, un géographe britannique, qui parle d'un urbanisme militaire qui est en train de se développer, dans lequel les acteurs, finalement, conçoivent la ville sur le modèle d'une guérilla permanente, notamment dans l'espace public. Et cette idée-là du danger, finalement, d'un danger qui serait celui de l'espace public urbain, donne un attrait, on pourrait dire, sécuritaire pour ce genre de véhicule puissant et imposant, et dans lequel donc on n'est plus sur des objets uniquement ostentatoires, c'est-à-dire dans lequel on montre son statut, ce qui est souvent le cas dans la consommation, mais aussi on pourrait dire une forme d'objet, on pourrait dire colonisatoire, je sais bien le terme n'est pas tout à fait français, ou performatoire d'une forme de sécurité. Je produis ma propre sécurité en occupant l'espace. Et finalement, l'espace que j'occupe, j'en fais dégager ceux qui me dérangent. J'occupe l'espace en le dominant. Alors, il y a une version, on pourrait dire, douce de cette domination. C'est notamment beaucoup de consommateurs de ces véhicules SUV qui disent, ben voilà, je suis plus haut, les châssis sont plus hauts, donc le véhicule est plus haut, donc je maîtrise mieux la circulation d'un point de vue visuel. Ça, on pourrait dire, c'est la version soft de la domination. Et puis, il y a une version hard ou forte que tu as évoquée, c'est de dominer physiquement l'espace, au besoin en écrasant volontairement ou non, les autres occupants de l'espace, et c'est souvent de l'espace public, et c'est souvent un argument aussi qui revient, c'est que en cas d'accident, je serai protégé, alors que dans une plus petite voiture ou sur un vélo, je ne vais pas avoir ce genre de choses. Et de fait, il est aussi évident, on pourrait dire, dans une couche supplémentaire que l'imagerie militariste entre en connivence avec des idéologies d'extrême droite, comme cela a toujours été le cas pour toutes les imageries militaristes, et ça se passe y compris sur la route.
Cet épisode prend fin. Merci encore Pierre Lannoy d'être intervenu dans Radio Marc Bloch, le podcast du Centre Marc Bloch. Aux auditrices et aux auditeurs, vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre invité et son travail dans les notes de l'épisode. Je vous rappelle que Radio MacBlock s'écoute sur toutes les plateformes, alors n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager les épisodes et à venir nous rendre visite à Berlin lors de nos manifestations. Les calendriers et toutes les informations pratiques sont sur notre site internet. À bientôt.